Chers amis, depuis le commencement, l'homme s'est perçu comme étant de la race de Dieu. Ainsi s'exprimait saint Paul dans son discours devant l'Aréopage à Athènes. Il faisait référence au poète de l'Antiquité grecque qui évoquait cette noblesse de l'humanité. Lui-même, avec toute la tradition juive, fidèle à la parole de Dieu, reconnaissait que l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu. L'homme est cet être non seulement corporel, mais aussi doué d'une âme spirituelle, capable de penser, de vouloir, d'aimer et d'entrer en communion avec Dieu. Cette noblesse humaine, l'homme la tient de sa nature, mais cette nature a vocation à être surnaturalisée précisément, car la plénitude de la vie pour un homme, c'est d'être rendu participant de la vie même de Dieu. Cette vocation sublime, l'homme ne peut l'accomplir qu'en s'ouvrant au don de la grâce de Dieu que lui a obtenu Jésus-Christ sur la croix. C'est l'Esprit-Saint qui sanctifie l'homme, qui l'élève par les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et qui le rend ainsi participant de la nature divine. Voici donc quel est le projet de Dieu concernant l'homme : le rendre saint et immaculé devant sa face dans l'amour, comme saint Paul nous le disait dans le début de sa lettre aux Éphésiens. L'homme a donc bien vocation à être augmenté, non par une tentative orgueilleuse d'escalader le ciel et de se prendre pour Dieu, mais par l'accueil humble de la grâce, cette grâce qui le rend capable d'aimer comme Dieu aime. Seulement cette vision de l'homme, cette anthropologie chrétienne, est aujourd'hui mise au défi par les progrès technologiques et par l'intelligence artificielle. Une autre augmentation est désormais proposée à l'homme, augmentation qui ne serait pas le fruit de la grâce, mais le résultat d'une technologie, augmentation qui ne viserait pas la sainteté et l'amour divin, mais la performance et l'efficacité. On nous présente en effet aujourd'hui un nouvel idéal, celui d'un homme augmenté par la technologie, transhumain, une sorte de surhomme qui viendrait faire honte à notre humanité faillible. Seulement, cette humanité perfectionnée serait paradoxalement une humanité robotisée, technicisée, machinisée. On nous la présente comme une surhumanité, alors qu'elle est plutôt une infra-humanité. Nous sommes donc là devant deux anthropologies radicalement différentes, deux visions de l'homme qui ne peuvent se rejoindre. Soit l'homme est vraiment image de Dieu, créé selon la sagesse de Dieu et appelé à la communion, à l'amour et à la sainteté à travers sa fragilité même. Soit, du fait de ses limites, l'homme doit être réparé, amélioré, augmenté par la technique pour en faire un surhomme, non dans une visée de sainteté, mais dans une visée de performance, selon une vision athée et matérialiste du monde. L'humanité est ainsi à la croisée des chemins, entre le saint, devenu temple du Dieu trinitaire, et le cyborg, sorte d'hybride homme-machine. Mais vous comprenez bien que ces deux anthropologies, si radicalement différentes, vont avoir un impact énorme sur la société, selon que l'une ou l'autre sera choisie. De ces deux anthropologies naîtront deux visions du monde radicalement différentes. Le 4 mars 2026, la Commission théologique internationale a sorti un document intitulé « Quo vadis humanitas », c'est-à-dire « Où vas-tu, humanité ?». Et ce document nous invite précisément à réfléchir à l'anthropologie chrétienne face aux nouveaux défis du transhumanisme et même du post-humanisme. Cette question « Où vas-tu, humanité ?» semble de plus en plus urgente. Est-ce que l'autonomie, est-ce que la performance technologique promise par l'IA ne risque pas de nous faire perdre ce qui fait notre humanité la plus profonde, à savoir la relation à l'autre, la communion, l'empathie, l'amour vrai? Est-ce que le fait de déléguer notre intelligence à la machine ne risque pas de nous faire perdre petit à petit notre propre capacité à penser, à réfléchir, sans parler de notre liberté? Car on ne délègue pas impunément ses facultés à un tiers sans renoncer quelque part à sa liberté et sa responsabilité et donc à ce qui fait la grandeur de notre humanité. Laisserons-nous la machine et les algorithmes décider pour nous, décider de ce qui est bon pour nous? Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, nous avertissait. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. La technologie, en effet, nous promet l'émancipation. Mais c'est peut-être là un des plus grands mirages de notre temps. Si elle est mal orientée, si elle est fondée sur une vision faussée de l'homme. Le risque, c'est bien une mise sous tutelle, un nouvel esclavage subtil et presque indolore, car séduisant, mais de ce fait infiniment plus redoutable que des chaînes. Humanité, où vas-tu ? Humanité, où est vraiment ta dignité ? Selon que l'homme se perçoit comme fils de Dieu ou comme transhumain, il s'inscrit soit dans la tradition de l'humanisme chrétien, en espérance de la civilisation de l'amour, soit dans un paradigme technocratique idolâtré, ouvrant sur une culture du pouvoir et de la performance, comme si la science pouvait redéfinir la nature humaine. Je me réjouis beaucoup de ce que le pape Léon XIV vient de sortir une encyclique, Magnifica Humanitas, magnifique humanité, qui porte sur la protection de la personne humaine à l'heure de l'intelligence artificielle. Cette encyclique est vraiment la bienvenue pour nous donner des critères de discernement face à la nouveauté radicale de l'IA, cette technologie qui progresse à une vitesse époustouflante. Le pape évoque lui aussi deux modèles de sociétés antagonistes et nous rappelle l'importance de mesurer ce qui nous est proposé à l'aune de la dignité humaine. Le pape Léon XIV commence ainsi son encyclique. « La magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif. Ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. » L'alternative est donc posée et elle trouve son expression biblique dans deux passages de l'Ancien Testament. La construction de la tour de Babel, dans la Genèse au chapitre 11, et la reconstruction des murs de Jérusalem, dans le livre de Néhémie. Le pape voit dans l'épisode de la tour de Babel l'expression du risque que pourrait faire courir à l'humanité toutes les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Les êtres humains, dit-il, décident de construire une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Ils veulent ainsi s'assurer stabilité et pouvoir, et surtout se faire un nom, craignant d'être dispersés sur la terre. L'entreprise semble colossale, une seule langue, une seule technologie, une seule direction. Cependant, le projet cache un piège profond. C'est une œuvre conçue sans référence à Dieu, soutenue par une uniformité qui élimine la diversité. Et au lieu de la communion, choisit l'homogénéisation. Lorsque la cité est construite sur l'orgueil et la prétention à se suffire à elle-même, la communication se dégrade, les langues se confondent et les êtres humains ne se comprennent plus. Le résultat n'est pas l'unité, mais la dispersion. Babel révèle ainsi la limite de toute construction qui, aussi grandiose soit-elle, naît de l'absolutisation de l'humain et de sa prétention à l'autosuffisance. Sacrifie la dignité des personnes à l'efficacité et aspire à atteindre le ciel sans la bénédiction de Dieu. Cette description faite par le pape pointe du doigt les dangers anciens et actuels d'une humanité qui veut escalader le ciel et orgueilleusement tout ramener à l'uniformité dans un seul langage aujourd'hui algorithmique. Ce désir de ne plus dépendre de Dieu, mais de devenir soi-même une sorte de surhomme qui se suffit à soi-même, dans une recherche d'efficacité et d'exaltation de la volonté de puissance, ne peut que faire émerger une société inhumaine. Et le risque est bien réel aujourd'hui. En revanche, une autre voie est possible. Et le pape envoie l'expression dans un épisode rapporté dans le livre de Néhémie, donc. Il y est question d'un moment de grande vulnérabilité dans l'histoire de l'antique Israël. Après l'exil babylonien, une partie du peuple est revenue à Jérusalem. Mais la ville est encore en ruine, les murs se sont effondrés et les portes ont été brûlées. Or, Néhémie est un juif au service du roi perse Artaxerxès et il apprend l'état désastreux de la ville sainte. Avant d'agir, commente le pape Léon XIV, il jeûne, prie, intercède pour le peuple. Puis il demande au roi la permission de retourner à Jérusalem et une fois sur place, il examine en silence les lieux détruits. Il n'impose pas de solution venue d'en haut. Il convoque les familles, confie à chacune un tronçon de mur à reconstruire, écoute les craintes, coordonne les efforts, fait face aux oppositions. Le récit montre comment la ville renaît non pas grâce à l'initiative d'une seule personne, mais grâce à la responsabilité partagée de tout le peuple, prêtres, artisans, chefs de famille, femmes et jeunes. C'est une œuvre qui a Dieu au centre et qui rétablit les liens avant même de poser les pierres. L'ancienne Jérusalem retrouve ainsi un langage commun, non pas celui de l'uniformité, comme c'était le cas pour Babel, mais celui de la communion. L'harmonie naît lorsque chacun assume son rôle et que tout le peuple reconnaît sa force comme venant du Seigneur. Le pape Léon XIV fait remarquer que nous sommes devant ces deux options aujourd'hui, en ce qui concerne notre rapport aux technologies et à la révolution numérique en cours. En effet, la technologie peut soigner, relier, éduquer, protéger la maison commune. Mais elle peut aussi diviser, rejeter, engendrer de nouvelles injustices. En fait, la technologie est comme un talent donné à l'homme qu'il doit faire fructifier. L'homme n'a pas à l'idolâtrer comme la fin de toute chose, comme la solution à tous les problèmes humains. Il ne doit pas non plus la voir a priori comme un mal. Cependant, le pape rappelle aussi que cette technologie n'est pas neutre, comme on pourrait le penser parfois. En effet, elle prend le visage de ceux qui la conçoivent, la financent, la régulent et l'utilisent. Et donc, le choix ne se situe pas entre un oui ou un non à la technologie, mais entre bâtir Babel ou reconstruire Jérusalem, entre un pouvoir qui prétend dominer le ciel et un peuple qui, en présence de Dieu, se met à travailler de manière unie pour relever les murs de la cohabitation fraternelle. Et c'est bien là que notre responsabilité est engagée. Le pape nous invite à un choix éthique. Il nous exhorte ainsi. Évitons donc le syndrome de Babel, l'idolâtrie du profit qui sacrifie les plus faibles, l'uniformité qui gomme les différences, la prétention d'un langage unique, y compris numérique, capable de tout traduire, même le mystère de la personne, en données et en performance. C'est là le risque de la déshumanisation, construire l'avenir en excluant Dieu et en réduisant l'autre à un moyen. C'est là une tentation ancienne et toujours nouvelle qui prend aujourd'hui aussi un visage technique. Face à la possibilité d'un monde devenant inhumain, totalitaire, par le souci d'homogénéisation, d'un monde où les hommes ne sont plus que des réservoirs de données numériques et donc ne sont plus perçus que comme des moyens en vue d'intérêts financiers ou même perçus comme de trop, eh bien le pape Léon XIV invite à un choix de vie. Choisissons plutôt, dit-il, la voie de Néhémie, mettant en évidence la valeur du travail partagé, du dialogue, de la justice, de la solidarité, de l'action orientée vers Dieu, pour rendre sûre la cité de Dieu pour les exilés de retour. Et si nous voulons reconstruire Jérusalem, la cité de paix, et non pas bâtir Babel, la ville orgueilleuse, eh bien deux exigences se font jour. Tout d'abord, chercher à édifier dans le bien. Construire une ville fondée sur le bien commun exige avant tout de bâtir sur le roc de la relation avec Dieu. Et oui, il s'agit de reconnaître que Dieu nous a créés pour lui et qu'il nous appelle à la communion avec lui, non pas malgré notre humanité, mais au cœur même de notre humanité avec ses fragilités et ses limites. Or, c'est bien cela qui gêne les transhumanistes d'aujourd'hui. Pour eux, les limites et les fragilités de l'être humain ne sont pas un lieu de grâce où Dieu vient rencontrer l'homme et où les hommes s'accueillent eux-mêmes dans l'amour, la compassion et la miséricorde. Non, pour les transhumanistes, Les limites de l'être humain ne sont qu'une erreur à corriger par la technologie en vue d'une plus grande efficacité. C'est bien là le rêve chimérique d'une affirmation de soi sans limite, qui nie ce qui fait la beauté de l'humanité, à savoir l'attention mutuelle et la véritable solidarité, qui ne sait plus voir que le vrai progrès ne se mesure qu'à la lumière de la dignité de chacun et du bien des peuples. À travers Néhémie, le pape nous invite donc à construire un monde où chacun peut s'épanouir dans une responsabilité partagée. À chacun sa partie du mur, fait remarquer Léon XIV. Scientifiques et chercheurs, entrepreneurs et travailleurs, éducateurs et législateurs, société civile, mouvements populaires et communautés de foi. Telle est la logique de la subsidiarité qui valorise la coopération entre les générations, entre les peuples, entre les disciplines et les cultures, comme voie royale pour favoriser la stabilité, la prospérité et la paix. La deuxième exigence pour édifier et reconstruire Jérusalem, c'est de rester humain et de promouvoir l'humain. Cela semble évident, mais de nos jours, cela devient un défi. À l'ère de l'intelligence artificielle, où la dignité humaine risque d'être éclipsée par de nouvelles formes de déshumanisation, le pape rappelle le devoir urgent de rester profondément humain, en préservant avec amour cette magnifique humanité qui nous a été donnée et manifestée dans sa plénitude dans le Christ, et qu'aucune machine ne pourra jamais remplacer dans sa splendeur. Il est donc urgent de remettre Dieu à l'horizon de notre action et l'être humain au centre de nos choix, dit le pape. C'est là la seule manière de réconcilier l'amour et la vérité, la justice et la paix. Il s'agit d'être des bâtisseurs de communion et non des architectes de Babel, des serviteurs du royaume à venir et non des maîtres de donjons voués à s'effondrer, comme le dit encore le pape Léon XIV, qui lance un appel vibrant. « Avec l'âme d'un pasteur et d'un père, dit-il, je demande à tous d'arrêter le chantier d'une énième Babel et d'unir nos forces pour édifier le bien, afin que l'humanité ne perde jamais sa beauté et que le monde puisse reconnaître une fois encore au cœur de l'être humain le lieu où Dieu désire habiter. » Ce cri du cœur de Léon XIV révèle bien son souci, et c'est un souci qui concerne l'humanité elle-même. Dans les transformations que nous sommes en train de vivre du fait de ces nouvelles technologies, l'enjeu est certes la question du travail, puisque beaucoup vont se retrouver au chômage, remplacés par l'IA ou les robots. C'est aussi la question de la vérité et de la liberté, puisque la propagande, la manipulation des foules et la surveillance généralisée en sont facilitées. Mais plus fondamentalement encore, c'est la question de l'humanité qui est en jeu. Il s'agit de préserver l'humanité de l'homme et ce qui fait sa grandeur. C'est sans doute la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une technologie nouvelle menace à ce point l'humanité de l'homme. Et c'est pourquoi le pape rappelle avec vigueur ce qui fait la beauté de l'humanité précisément. D'où le titre de l'encyclique « Magnifique humanité ». Magnifique humanité à préserver, à protéger, à promouvoir. Quelle tragédie en effet si l'homme, par ses propres œuvres, se mettait lui-même en danger. L'anticipation d'un tel danger, la romancière Marie Shelley l'avait évoqué littérairement dans son fameux roman de science-fiction « Frankenstein ou le Prométhée moderne ». Elle mettait en scène un certain Victor Frankenstein, homme passionné par les sciences, non dépourvu d'hubris et obsédé par l'idée de vaincre la mort. Étudiant à l'université, il se plonge dans des recherches sur la vie et la mort, et finit par découvrir les secrets de la création de la vie en assemblant des parties de cadavres. Après des années de travail acharné, il donne vie à une créature hideuse et difforme, qu'il abandonne immédiatement par horreur. Mais le monstre, lui, doté d'une intelligence et d'une sensibilité exceptionnelles, s'enfuit et erre dans la nature. Repoussé par les humains, Il demande alors à Victor de lui créer une compagne. Celui-ci commence cette œuvre, puis détruit la créature féminine en cours de création, craignant qu'elle ne donne naissance à une race de monstres. Le monstre se venge alors en tuant des proches de Victor, dont sa femme. Voici ce qui se passe quand on veut défier les lois de la nature en se prenant pour Dieu. La chute n'est jamais loin. Ce récit intemporel questionne les perspectives transhumanistes actuelles. Il y a en effet des thèmes communs entre le récit de Mary Shelley et les partisans du transhumanisme, ainsi celui de la création artificielle de la vie. Victor Frankenstein incarne l'hubris, la démesure, en défiant les lois de la nature pour créer la vie. Son acte est motivé par l'orgueil scientifique et la volonté de surpasser la mort. Finalement, le roman met en garde contre les dangers de l'innovation sans éthique. Or, les transhumanistes, comme le docteur Laurent Alexandre en France par exemple, eux, ils prônent l'amélioration de l'humain via les technologies par l'IA, la génétique, les nanotechnologies, les interfaces cerveau-machine. Ils sont comme des Prométhées modernes. Ils veulent jouer à Dieu en repoussant les limites biologiques, en accédant à une sorte d'omniscience et en recherchant le Graal de l'immortalité. Cette démarche transhumaniste, le bioéthicien Francis Fukuyama, représentant du bioconservatisme et donc opposant au transhumanisme, la comparait à une forme de frankensteinisme, où l'homme créerait une nouvelle espèce, les post-humains, autrement dit les nouveaux monstres, si on fait le parallèle avec le roman de Mary Shelley. Un autre thème commun au roman de Mary Shelley et à la perspective transhumaniste est celui d'une partition entre les vivants. Victor Frankenstein crée un monstre qui ne peut pas vivre la communion avec les êtres humains. Laurent Alexandre, lui, défend l'idée que l'IA et les biotechnologies pourraient créer une nouvelle humanité, mais sans se soucier de la question des inégalités. Dans un tel scénario, en effet, le risque d'une fracture sociale est bien présent. Les « augmentés », entre guillemets, pourraient devenir soit des monstres hybrides déshumanisés, car de fait on ne sait pas de quoi vont accoucher toutes ces technologies nouvelles qui sont encore expérimentales, soit une sorte d'élite gouvernant les laissés pour compte. Le parallèle qu'on peut aussi faire entre ces deux entreprises est celui des conséquences éthiques de la science. Victor se prend pour Dieu, crée un monstre, puis abandonne sa créature, qui devient un meurtrier par vengeance. Il porte donc la responsabilité des conséquences de ses actes et de ce qu'il a créé. Le roman pose donc la question de l'éthique de la création. Qui est responsable des conséquences de la science et d'une science mal utilisée? La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Cette maxime n'a rien perdu de son actualité. Les transhumanistes, quant à eux, insistent sur les bénéfices des nouvelles technologies, la guérison des maladies, l'immortalité, mais ils minimisent souvent les risques, la perte d'humanité, les inégalités et aussi l'eugénisme, c'est-à-dire le tri et la sélection des êtres humains selon des critères de performance. Le débat éthique devrait se poser face à de telles innovations. Faut-il réguler ces technologies? Qui décide des limites? Nous ne pouvons pas laisser au seul créateur ou à ceux qui financent de tels projets la liberté sans limite de tout faire sans garde-fou, sans réflexion profonde sur l'anthropologie sous-jacente qui guide de tels projets. Puisque c'est l'humanité qui est en jeu, c'est bien l'humanité qui doit décider de ce qu'elle veut devenir. Car de fait, tous seront impactés par ces nouvelles technologies, puisqu'elles susciteront des changements importants et potentiellement irrévocables concernant le travail, la société, les relations, la liberté, la préservation de la maison commune et beaucoup d'autres domaines. Le pape Léon XIV demande à ce que l'IA, les nouvelles technologies, soient évaluées éthiquement à l'aune de la dignité humaine, à l'aune de la préservation de l'humain. Le point crucial, dit-il, n'est pas l'usage de la technique en tant que telle, mais la vision qui la sous-tend. Si l'être humain est traité comme un matériau à perfectionner ou à surpasser, il devient alors plus facile d'accepter que certains soient considérés comme moins utiles, moins désirables, moins dignes. Au nom du progrès, on peut en venir à imaginer des sacrifices nécessaires et à faire payer aux plus fragiles le prix d'une prétendue optimisation de l'espèce. Voyez la lucidité du propos. Il y a donc bien deux sortes de progrès. Un progrès au service de la personne et des peuples, ou un progrès qui les soumet à des logiques de pouvoir. En fin de compte, nous dit le pape, la question décisive est celle-ci. L'IA rend-elle la vie humaine sur la Terre plus humaine, à tout point de vue? La rend-elle plus digne de l'homme? Et cette question se pose concernant toutes les nouvelles technologies. Si la réponse est oui, eh bien, saisissons l'opportunité qui nous est offerte d'une reconstruction patiente et partagée sur le modèle de la Renaissance de Jérusalem racontée dans le livre de Néhémie. Si, au contraire, la puissance grandit tandis que le cœur s'assèche et que les liens se rompent, alors nous sommes face à une nouvelle forme de Babel, une construction grandiose, mais inhumaine. Nous retrouvons là l'inspiration de saint Augustin, cher à notre pape, selon laquelle l'histoire humaine est comme le théâtre d'une lutte entre deux amours qui ont construit deux façons d'habiter le monde et de vivre ensemble, autrement dit deux cités. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité céleste. Eh bien, espérons et prions pour que l'humanité tout entière, inspirée par le Saint-Esprit, choisisse non pas la voie de la construction d'une nouvelle Babel, mais celle de la cité sainte, la Jérusalem de paix, où la dignité humaine est préservée et où peut se déployer la civilisation de l'amour. Chers amis, l'homme est mis en question par les nouvelles technologies, et particulièrement par l'IA, l'intelligence artificielle. C'est lui, l'homme, qui a créé ces nouvelles technologies, mais il semble à la fois fasciné et dépassé par les progrès de celles-ci, et notamment de l'intelligence artificielle. Il tente à la diviniser et à se mettre sous son joug. Au lieu de prendre comme critère de discernement dans ses choix, son intelligence, ses valeurs, sa conscience, il se confie à la puissance de l'intelligence artificielle et lui laisse décider ce qui est le meilleur, puisqu'il pense qu'elle saura mieux que lui ce qu'il est bon de faire. Quelque part, il abdique ce qui fait son humanité et sa grandeur, et transfère à la machine le soin de décider pour lui. Nous avons tendance à rire quand nous voyons des jeunes consulter ChatGPT pour soumettre à la machine leurs interrogations existentielles. Mais cette attitude reflète une tendance qui se banalise. Par exemple, des étudiants délèguent à l'IA les devoirs à faire, les mémoires à écrire. Et ce qui est plus effrayant encore, c'est qu'elle se déploie, cette attitude de délégation des choix aux algorithmes, jusque dans l'armée, pour les prises de décision en contexte de guerre. Et d'une certaine manière, cela ne nous étonne pas, dans la mesure où nous avons basculé dans une société matérialiste et athée, où l'enjeu n'est pas tellement l'éthique, mais la performance, où l'idéal de l'homme n'est plus la sainteté, mais l'efficacité. Nous sommes en face de deux anthropologies très différentes, l'une issue de la Bible, où l'homme est reconnu comme image de Dieu, appelé à participer à la vie même de Dieu dans l'amour, et l'autre issue de notre modernité technocratique, où l'homme, plein d'hubris, se prenant souvent pour Dieu, crée des technologies par lesquelles il voudrait s'affranchir de ses propres limites humaines et participer d'une nouvelle forme de puissance et d'omniscience attribuée désormais à l'intelligence artificielle. Mais de ces deux anthropologies ne peuvent naître que deux modèles de société bien différents, que le pape Léon XIV a évoqué dans sa dernière encyclique Magnifique Humanité, comme Babel ou Jérusalem. En effet, l'anthropologie chrétienne qui s'est déployée à partir de la Bible s'est épanouie dans ce que nous pourrions appeler un humanisme chrétien. Et cet humanisme chrétien a imprégné toutes les sociétés chrétiennes pendant des siècles, promouvant la dignité humaine, le respect des peuples, le bien, la vérité, l'amour et les lois divines comme critères ultimes du choix. C'est la civilisation irriguée par le christianisme qui a donné naissance au droit qui régit la guerre pour justement la limiter le plus possible, la circonscrire selon des règles pour que les populations civiles soient protégées. C'est à des moines et des évêques qu'on doit la trêve de Noël, par exemple, dans les combats. Ce sont les valeurs chrétiennes et humanistes qui ont donné naissance à la notion de proportionnalité dans la riposte, la légitime défense comme seule justification pour prendre les armes, l'interdiction des armes de destruction massive comme les bombes nucléaires, les armes biologiques, chimiques, par exemple, parce qu'elles touchent aussi bien les militaires que les civils. Il y a une éthique de la guerre. Il y a des conventions internationales qui cherchent à humaniser la guerre afin d'en atténuer le plus possible les conséquences terribles pour les populations. Par exemple, on ne maltraite pas des prisonniers, on ne tire pas sur des ennemis qui se rendent, on ne tue pas des civils, on ne bombarde pas des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte. La fin ne justifie pas les moyens. Et donc on ne peut pas utiliser n'importe quel moyen sous prétexte de vouloir remporter la victoire. Nous avons un bel exemple de cette magnanimité dans le combat à la personne de Charles de Bonchamp, militaire français et général royaliste de la guerre de Vendée. En mars 1793, l'ouest de la France est touché par de nombreuses insurrections paysannes. Des paysans viennent chercher Charles de Bonchamp pour lui demander de prendre la tête de l'insurrection. Bonchamp se montre réticent et doute qu'une victoire soit possible contre les troupes de la République. Mais il finit cependant par accepter. Sans illusion, il quitte sa femme qui est enceinte en lui déclarant « Nous ne devons même pas prétendre à la gloire humaine. Les guerres civiles n'en donnent point. » Arrivé à Saint-Florent-le-Vieil, Charles de Bonchamp rétablit un certain ordre. Il organise la défense du bourg et fait proclamer une grâce pour les républicains emprisonnés. Les insurgés font jurer aux prisonniers de ne plus porter les armes contre eux. Puis ils les remettent en liberté. Ils font ensuite chanter un Te Deum par le curé réfractaire de Saint-Florent. Les combats font rage, tantôt à l'avantage des Vendéens, chrétiens et royalistes, tantôt à l'avantage des républicains. Mais arrive la bataille de Cholet, où les Vendéens sont battus et Bonchamp gravement blessé. Tous se replient, et pour se mettre à l'abri, ils doivent franchir la Loire. Seulement, que faire des prisonniers républicains emprisonnés depuis plus de 4 mois à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil ? Les officiers vendéens constatent qu'ils ne peuvent leur faire franchir la Loire et envisagent de les faire fusiller. L'épouse du général Lescure écrit dans ses mémoires « Tous convinrent qu'il fallait les fusiller sur le champ. Mais quand on demanda qui ira en donner l'ordre, personne n'en eut le courage. L'un disait que ces malheureux, pris la plupart depuis 4 à 5 mois, n'étaient pas la cause des massacres, que cette horrible boucherie commise de sang-froid était au-dessus de ses forces. Un autre que ce serait légitimé, pour ainsi dire, les horreurs commises par les Bleus, les Républicains. Que cela redoublerait la rage des Républicains et les empêcherait de faire grâce à aucune créature vivante dans la Vendée, où il restait encore plus de la moitié des habitants. Enfin, personne ne voulant faire exécuter une résolution aussi barbare, chaque officier se retira sans donner d'ordre. Monsieur de Lescure, donc militaire opposé à la Révolution, n'avait pu prendre part à aucune délibération. Il était blessé, couché sur un matelas, et moi assise auprès de lui. Seul, je pus l'entendre, quand on parla de tuer les prisonniers, dire entre ses dents « Quelle horreur !» Quant à Bonchamp, à l'agonie, il apprend l'imminence du massacre. Il charge alors un de ses officiers d'obtenir en son nom la grâce des prisonniers. Celui-ci saute alors à cheval et se précipite sur l'esplanade devant l'abbaye en criant « Grâce aux prisonniers, Bonchamp le veut ! Grâce aux prisonniers, Bonchamp l'ordonne !» Et c'est ainsi que les prisonniers républicains furent sauvés. Ces hommes se battaient pour une noble cause, et habités par les valeurs chrétiennes, ils ne s'étaient jamais livrés à des représailles sanguinaires. Ils ne pouvaient donc envisager de massacrer des soldats et de se comporter avec autant de cruauté que les républicains s'étaient comportés envers eux. Ils n'avaient pas perdu de vue l'humanité de ceux qu'ils combattaient, et ils n'avaient donc pas perdu leur propre humanité, puisqu'ils préférèrent faire grâce à leurs ennemis plutôt que de perpétrer un massacre. Vous me direz peut-être que cette époque est révolue et que depuis longtemps on n'agit plus ainsi. Sans doute, même s'il reste, je pense, dans toutes les armées du monde, des hommes intègres. Mais ils sont peut-être de moins en moins nombreux, sans doute parce que la devise de Sainte-Jeanne d'Arc a été oubliée « Dieu premier servi ». En effet, quand nous mettons Dieu en premier dans nos vies, alors nous n'oublions pas que l'homme est l'image de Dieu et qu'il doit être respecté et honoré, même s'il est notre ennemi. Aujourd'hui, les choses ont tendance à changer radicalement. On se situe dans une autre anthropologie, où l'homme n'est plus perçu comme image de Dieu. Même le droit international, pétri de valeurs chrétiennes, est foulé aux pieds par les puissants de ce monde. L'hubris, la démesure, l'orgueil, la volonté de puissance, se sont comme emparés des dirigeants pour établir non pas la justice et la paix, mais pour asseoir leur domination par la force, au mépris même du droit et des conventions internationales. On prétend établir la paix par la guerre, mais comment pourrions-nous établir la paix par quelque chose qui la contredit si radicalement? La finalité noble de la paix ne peut justifier des moyens immoraux, des massacres de civils, des attaques contre des pays qui n'ont pas attaqué, des assassinats de journalistes, plus de 200 à Gaza tués intentionnellement, ou des bombardements d'installations civiles, d'hôpitaux, d'universités, d'écoles, des villages entiers rasés en Palestine puis au sud du Liban maintenant, sans parler des tortures physiques et psychologiques sur les prisonniers, et parmi eux des médecins qui ne faisaient que leur travail de soigner tous les blessés. Je pense notamment au docteur Oussam Abou Safia, pédiatre palestinien qui dirigeait l'hôpital Kamal Adouan dans la bande de Gaza, dont le fils a été tué par les bombardements israéliens, qui a refusé d'abandonner ses patients, qui a été arrêté et qui est désormais détenu sans charge et sans procès pour une durée indéterminée et soumis à la torture dans une prison israélienne, un parmi tant d'autres. Je parle de cela parce que c'est actuel, c'est bien documenté et que nous en avons des témoignages tous les jours. mais je sais bien qu'il y a d'autres contrées où il ne fait pas bon non plus être en prison. » Malheureusement donc, la Convention de Genève, en son article 13, qui interdit la torture et les traitements inhumains des prisonniers, cette convention est violée chaque jour, non pas en cachette, mais ostensiblement et avec fierté. Et il semble que cela ne dérange personne, comme si nous nous étions habitués à l'horreur, comme si la minimisation de ces faits dans nos médias occidentaux contribuait à la banalisation de l'inhumanité. Les pires crimes sont désormais acceptés comme dommages collatéraux. Le problème, c'est que ce ne sont pas des dommages collatéraux, puisque c'est sciemment voulu, organisé et planifié. Cette accoutumance au mal et à la cruauté dit quelque chose de notre humanité qui se perd. On ne cherche plus à s'entendre, à résoudre les conflits par une vraie diplomatie, mais on cherche à écraser l'autre, ce qui est bien différent. Le 7 avril 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, annonçait à propos de l'Iran « Une civilisation entière va disparaître ce soir, pour ne plus jamais réapparaître ». Il annonçait ainsi qu'il allait rayer de la carte non pas seulement un pays, mais une civilisation, avec toute sa population, son histoire. Mais ce faisant, il annonçait rien de moins qu'un crime contre l'humanité, selon les critères donnés par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mais qui réagit encore? Tous les jours, il semble que nous ayons affaire à une surenchère dans l'insoutenable. Certains ministres israéliens sionistes affirment devant caméra ou sur les réseaux sociaux leur désir de voir disparaître tous les Palestiniens, considérés par eux non plus comme des hommes mais comme des animaux, et ceci pour pouvoir s'installer sur leurs terres. Tous les jours, des paysans palestiniens en Cisjordanie sont terrorisés par des bandes de colons qui veulent les faire partir et qui pour cela brûlent leurs voitures, leurs oliviers, leurs champs, voire leurs maisons, et les violentent. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a célébré ses 50 ans avec un gâteau d'anniversaire pour le moins choquant. Le 2 mai 2026, son épouse lui a en effet offert à cette occasion un grand gâteau, décoré d'un nœud coulant, accompagné de l'inscription « Mazel Tov », c'est-à-dire « Bonne chance, bon destin ».« Mazel Tov » au ministre Ben-Gvir. Parfois, les rêves deviennent réalité. Ce ministre extrémiste, lui-même partisan du terrorisme israélien contre la population palestinienne, milite depuis longtemps pour une loi autorisant la peine capitale par pendaison pour les terroristes. Or, la Knesset, le Parlement israélien, vient d'adopter cette loi. Ainsi, le rêve de Ben-Gvir devient réalité. Drôle de rêve, surtout quand on sait que pour lui, tous les Palestiniens, et pas seulement les combattants du Hamas, sont des terroristes à éliminer, puisqu'il appelle depuis longtemps à la destruction des Arabes et des Palestiniens, hommes, femmes, vieillards, enfants, et au contrôle de la terre, de la mer à l'Euphrate. On se glorifie désormais de l'inhumanité et du massacre des populations. Mais ce qui est encore plus grave, peut-être, c'est précisément l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, dans l'armée pour éliminer les ennemis. On délègue désormais à l'algorithme le choix des cibles. J'avais déjà évoqué cela il y a un an quand je vous avais parlé dans le thème sur l'IA du programme Lavender mis en place par l'armée israélienne. Il s'agit d'un système d'intelligence artificielle qui choisit les cibles à partir de l'analyse d'une multitude de données numériques et détermine là où doivent être lancées les bombes. L'utilisation de ce programme automatisé pour choisir qui doit être tué est une pratique sans précédent dans les guerres jusqu'à présent. Ce qu'on demande à l'IA, ce sont des résultats. L'IA ne fonctionne pas selon des normes éthiques. Elle n'a pas la notion du bien et du mal, et elle ne tient pas compte des règles de la guerre. Et donc l'algorithme a été formaté pour que si un combattant du Hamas est en haut de l'échelle décisionnaire, on peut tuer jusqu'à 100 civils pour être sûr de l'atteindre, donc femmes, enfants, familles. La fin ici justifie les moyens. non pas pour l'IA qui fonctionne selon des algorithmes et les données qu'on lui a fournies, mais pour l'état-major israélien, qui accepte de déléguer les décisions de meurtre de masse à l'IA. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'industrialisation de la mort passait par les chambres à gaz. Aujourd'hui, elle passe par l'IA. C'est peut-être encore plus efficace, puisque c'est l'IA qui choisit les cibles à bombarder, en analysant une quantité énorme de données récoltées par surveillance massive. Et le militaire n'est là que pour une pseudo-validation formelle. Tout ce que propose l'IA est de fait validé, sans que l'humain cherche vraiment à en vérifier la pertinence. Vous percevez le problème et l'horreur de ce nouveau type de guerre. Quand l'humain disparaît de l'équation, pour ne devenir que la chambre d'enregistrement d'un tueur robotique, exécuteur froid de basses œuvres, eh bien la morale s'efface, les morts innocents s'accumulent, et la crainte que de tels systèmes se généralisent dans le monde ne peut qu'augmenter. Or de fait, j'ai évoqué ce qui se passait en Israël, parce que c'est ce qui est le plus documenté actuellement. Mais cela a tendance à se généraliser. Nous savons que l'entreprise américaine Palantir, créée par Peter Thiel et Alex Karp, et financée en partie par la CIA, a proposé ses services non seulement à Israël durant cette guerre, mais qu'elle les propose aussi à l'OTAN et à de nombreux pays européens, dont la France. Il faut bien comprendre que Palantir est une entreprise de services et d'édition logicielle spécialisée dans les domaines du maintien de l'ordre, du renseignement et de la sécurité. Elle développe et commercialise des logiciels dédiés à la fusion, la visualisation et à l'analyse opérationnelle de tout ce qui se trouve dans le big data, autrement dit de toutes les données personnelles de millions de personnes, données qu'elle croise. Cette entreprise porte donc une promesse. Voir partout, avoir une vision globale en croisant les données, afin de prévoir, anticiper, décider et contrôler. L'un de ces logiciels, Palantir Gotham, est utilisé dans l'armée américaine, dans la communauté du renseignement des États-Unis, le NSA, la CIA, le FBI, et dans des services de police. Ce logiciel est également utilisé par les services de renseignement d'une douzaine de pays européens, dont la France, puisqu'un contrat a été signé entre Palantir et la DGSI. Cette entreprise est particulièrement controversée, parce qu'elle met de fait en place une société de surveillance, en utilisant de façon opaque les données de vie privée de millions de citoyens, sans leur demander leur consentement. Elle est aussi aux services d'État qui se servent de ces logiciels souvent sans respecter les droits de l'homme, et en allant bien au-delà des objectifs affichés de lutte contre le terrorisme, contre la fraude ou autres délits majeurs. N'oublions pas non plus l'origine du nom de cette entreprise, Palantir. Pour ceux qui connaissent les œuvres de Tolkien ou qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, cela vous rappellera la fameuse pierre de vision nommée précisément Palantir, et qui permet de tout observer à distance. Le sorcier Saruman s'en sert pour obtenir des informations et accroître son pouvoir en surveillant tout. Seulement par cette pierre, il entre en contact avec Sauron, puissance ténébreuse qui le dépasse de beaucoup. Saruman croit utiliser l'outil à son avantage. En réalité, c'est lui qui est influencé. Il devient de plus en plus obsédé par le pouvoir et perd son indépendance. Il finit par être sous la coupe de Sauron, qui est le mal absolu. C'est d'ailleurs l'une des leçons symboliques de Tolkien. La connaissance totale et la capacité de tout voir donnent un immense pouvoir sur les peuples pour les asservir, mais elles peuvent aussi corrompre celui qui croit les maîtriser. L'entreprise Palantir cristallise en elle les dangers d'une intelligence artificielle qui prétend tout voir et tout décider pour nous. Cependant, elle décide pour nous parce que nous le voulons bien. Nous sommes donc désormais à l'ère de la destruction de masse par délégation de notre responsabilité morale à une machine programmée pour cibler et tuer. Quand l'être humain abdique ce qui fait sa grandeur, qu'il délègue son intelligence, ses décisions, sa responsabilité à ce qui ne pense pas, à ce qui est incapable d'aimer, nous ne pouvons que tomber dans le gouffre de l'inhumanité. En fait, nous vendons notre âme à Sauron, si on se réfère au Seigneur des Anneaux, ou bien à Satan, si on se réfère à la Bible. Le pape Léon XIV s'élève à la fois contre l'hubris des dirigeants qui cherchent à étendre leur domination et contre la délégation de la décision de tuer à l'IA. Dans sa réflexion lors de la veillée de prière pour la paix le 11 avril 2026, il a répondu d'une certaine manière à Donald Trump qui prônait la paix par la guerre, l'écrasement de ceux qui lui résistent et la poursuite d'une politique de domination. « La guerre divise, l'espérance unie, affirme le pape. La tyrannie piétine, l'amour élève. L'idolâtrie aveugle, le Dieu vivant éclaire. Et face aux ravages de la guerre, face à cette chaîne démoniaque du mal, comme il l'appelle, le pape demande à ce que nous nous mettions au service du royaume de Dieu. Un royaume, dit le pape, où il n'y a ni épée, ni drone, ni vengeance, ni banalisation du mal, ni profit injuste, mais seulement dignité, compréhension et pardon. Et il poursuit en disant « Nous avons là un rempart contre ce délire de toute puissance qui autour de nous devient de plus en plus imprévisible et agressif. Même le nom saint de Dieu, le Dieu de la vie, est entraîné dans les discours de mort. » Le pape fustige ainsi cette tendance très présente aussi bien en Israël que dans les courants évangéliques américains ou dans l'islamisme radical, tendance qui consiste à justifier la guerre au nom de Dieu, de justifier des massacres au nom de soi-disant promesses divines, comme si Dieu pouvait bénir les guerres de conquête, de domination et les massacres de civils. C'est là une véritable falsification de la religion, une idolâtrie et un asservissement à celui qui est menteur et homicide depuis le commencement, à savoir le diable. Le pape n'y va d'ailleurs pas de main morte dans sa correction fraternelle. « Est asservi à la mort, dit-il, celui qui a tourné le dos au Dieu vivant, pour faire de lui-même et de son propre pouvoir l'idole muette, aveugle et sourde, à laquelle sacrifier toute valeur et exiger que le monde entier plie le genou. Assez donc avec l'idolâtrie de soi-même et de l'argent. Assez avec la démonstration de force. Assez avec la guerre. La véritable force se manifeste dans le service de la vie. » Le pape Léon XIV dénonce une culture de la puissance qui s'infiltre partout dans la société et qui se répand en banalisant et en normalisant la guerre, en la réhabilitant comme instrument de politique internationale, tandis que les critères éthiques même qui en avaient limité l'usage sont progressivement érodés. Quant à l'usage de l'IA dans les conflits armés, l'usage des systèmes d'armes à autonomie opérationnelle, le pape rappelle avec vigueur que de tels systèmes ne sauraient émettre un jugement moral et agir selon des critères éthiques. Car, dit-il, un jugement moral ne se réduit pas à un simple calcul. Il implique la conscience, la responsabilité personnelle et la reconnaissance de l'autre en tant que personne. Et oui, les victimes ne peuvent être réduites à de simples données. Et il en tire la conclusion appropriée. Il n'est donc pas acceptable de confier à des systèmes artificiels des décisions mortelles. Attention, dit-il encore, car l'IA nous habitue à l'idée que la violence est inévitable et qu'il suffit de l'optimiser. Face à ce danger, le pape Léon XIV rappelle quelques critères qui semblent évidents, mais qui sont malheureusement trop souvent mis de côté. Le premier est celui de la responsabilité personnelle de la décision qui doit être absolument maintenue. Car lorsque la décision de frapper devient automatique ou opaque, le risque de déresponsabilisation augmente. Or, l'homme doit rester le dernier responsable, sans se défausser sur la machine. Il doit pouvoir rendre compte de ses choix, pour pouvoir éventuellement être jugé. D'autre part, le choix éthique a besoin de temps. Or, la rapidité de l'IA court-circuite le temps nécessaire à la réflexion et à un discernement juste. Donc, il y a problème. Enfin, dernier critère, celui de la protection des civils, et le pape a cette parole forte. Toute technologie qui facilite le fait de frapper sans voir le visage de l'autre abaisse le seuil moral du conflit. Le pape invite donc à se souvenir de la protection due dans toute guerre aux civils et aux infrastructures nécessaires à leur survie. Et en conséquence, il affirme « L'intelligence artificielle doit être désarmée », c'est-à-dire libérée des logiques qui la transforment en instrument de domination, d'exclusion et de mort. Et de fait, c'est à cette condition seulement qu'elle ne servira pas le projet d'une nouvelle Babel, mais qu'elle sera au service de tous et du bien commun, au service de la reconstruction de Jérusalem, autrement dit de la civilisation de l'amour. Puissent les hommes accueillir le don de sagesse pour servir Dieu et la magnifique humanité plutôt que leur ego, leur orgueil et finalement le prince de ce monde.